Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment bien préparer la deuxième session? La deuxième session à l'université, presque à tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire à Kinshasa et même dans d'autres provinces s'apprêtent à organiser les épreuves de la deuxième session pour l'année académique finissante. Mais parfois, les stress et les découragements gagnent certains étudiants qui n'ont pas pu satisfaire à la première session. Vous êtes à journée totale, certains sont à journée partielle. Bon, voilà, il a autant 12 cours à reprendre, tout ça, et parfois, ça, c'est décourageant. On se dit, bon, tous les efforts fournis n'ont abouti à rien et je dois encore reprendre presque à zéro. Eh bien, on va aborder toutes ces questions. Alors, chers camarades étudiants, appelez-nous pour participer au 081-890-63-94. Vous êtes à l'UNIKIN, colline inspirée. Vous êtes à l'Université de Mbandaka, l'UNIKIS. Voilà, Bandunduville, vous êtes à Lubumbashi, à la Kachapa, et Unigom, et dans d'autres universités à travers le pays, composez le 081-890-63-94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Jean-Paul Yaoui Maizambi est notre invité, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doyen de la faculté de psychologie à l'Université Pédagogique Nationale. Alors, dites-nous, professeur, comment est-ce que les étudiants peuvent déjà préparer la deuxième session?
Oui, merci pour la préoccupation de la radio Okapi. C'est très important que nous soyons maintenant arrivés au moment de la deuxième session. En fait, un étudiant qui accède à la deuxième session, c'est celui qui n'a pas accédé, c'est celui qui n'a pas satisfait aux critères de délibération. Parce que les critères sont bien définis. Il faut nécessairement que l'étudiant qui a obtenu de 50 à 54% puisse avoir des échecs légers. Et celui qui a obtenu de 50 à 59% aussi des échecs légers. Et celui qui a obtenu à partir de 60% jusqu'au-delà, il doit nécessairement avoir son échec léger. Et il y a des conditions qui n'arrivent, des étudiants qui n'arrivent pas à satisfaire à ces conditions, à ces critères de délibération. C'est pour cela qu'ils sont appelés à passer à la deuxième session. Et à ce niveau de la deuxième session, il faut catégoriser aussi les étudiants qui passent en deuxième session. Vous savez, hier, j'étais dans mon bureau, juste en train de travailler, j'ai sorti de mon bureau. J'ai rencontré un étudiant qui est le chef de promotion de G1 maths informatique. Je l'ai vu, il était assis, je lui pose la question, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, monsieur le professeur, je suis en train de méditer. J'ai 18 cours, et des 18 cours, je n'ai reçu qu'à 6 cours. J'ai 6 cours, j'ai échoué, et puis les 6 autres cours, j'ai des vides. Alors je suis en train de méditer sur ma situation. Mais je me rends compte qu'avec 18 cours, 6 échecs, 6 réussites et 6 vides, c'est 666, j'ai l'impression que je suis dans la malédiction. En fait, c'est dans ce contexte que je suis en train de méditer. Alors moi, je dis, il faut catégoriser les étudiants.
Oui.
Qui vient en deuxième session? Soit c'est l'étudiant, tout au long de l'année, il n'a pas été au cours. Mais pour quelle raison il n'a pas été au cours? Parce qu'il à tout moment, il était chassé, il devrait aller chercher les frais d'études. Et c'est à la fin de l'année qu'il a les frais d'études, il n'a pas eu à suivre les cours, il n'a même pas de notes de cours, il n'a pas de notes de cours, et alors, pour lorsqu'il est dans la salle d'examen, il n'a pas pu répondre aux questions. Ça, c'est la première catégorie d'étudiants. La deuxième catégorie d'étudiants qui revient en deuxième session, il est dans l'auditoire, il a suivi les cours, mais il n'a pas eu le temps d'avoir ses notes au complet, ou soit d'acheter, de se procurer des cours polycopiés. Et cet étudiant n'a pas eu à bien maîtriser ses leçons et à relire ses notions scolaires au niveau de la maison. et il ne peut que revenir en deuxième session. Une autre catégorie d'étudiants, c'est celui qui n'a pas rempli les conditions d'être enseigné à l'université. Il est dans l'auditoire, mais il ne comprend rien de tout ce qui est enseigné par les professeurs. Et malheureusement, lorsqu'il y a des questions d'évaluation, il ne peut pas répondre à ces questions d'évaluation, il revient en deuxième session. Donc le moment de la deuxième question, de la deuxième session, c'est un moment de remise en question. Je parlerai de méditation, comme l'étudiant là, du chef de promotion de maths et informatique, il dirait que c'est le mois de méditation. Il faut qu'il puisse se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je dois maintenant faire. Je n'ai pas eu mes notes, qu'est-ce que je dois maintenant faire. Il va chercher à se procurer des notes. Voir les amis, est-ce que je peux avoir telle note, est-ce que je peux photocopier telle note pour qu'il arrive à étudier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que je n'ai pas eu le temps de pouvoir réfléchir sur mes cours. Alors il doit se donner à lui-même des conditions. Maintenant là, fini le temps pour moi de me distraire, je dois être au maquis de façon à ce que je puisse réexaminer ce qui s'est passé et voir dans quelle mesure je peux encore maîtriser ces notes pour que je puisse bien réussir ma deuxième session. Donc ça, c'est un moment de remise en question.
Voilà. Mais il y a certains étudiants qui reviennent en deuxième session tout simplement parce qu'ils n'avaient pas acheté les syllabus ou ils n'avaient pas payé les droits d'auteur aux professeurs. Voilà. Et certains professeurs conditionnent la réussite par l'achat du syllabus. Celui qui n'a pas les syllabus est d'office. Il doit se préparer à revenir en deuxième session.
En fait, là aussi, il n'y a pas à répondre de manière spontanée ou de manière épidermique. Vous savez que nous avons des étudiants qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir prendre des notes. Alors, les professeurs en font une exigence. Ils disent chacun va nécessairement posséder les supports. Pour quelle raison? Parce que vous-même, vous vous trouvez dans la difficulté de pouvoir prendre des notes. Les supports doivent vous aider à pouvoir à avoir vos notes au complet et à étudier. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est-à-dire conditionner la réussite au fait de l'achat du support. Que les professeurs puissent dire que lorsqu'à partir du moment où vous avez acheté le support, vous avez des notes. Et si vous n'avez pas acheté le support, quelles que soient vos connaissances, vous avez échoué. Là, c'est ce qui est mauvais. Là, nous avons des charlatans au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Mais souvent, moi, j'ai toujours utilisé cette manière de voir les choses. Et lorsqu'on est tenté de généraliser pour dire que ce sont des professeurs qui sont dans cette situation, mais s'il faut vraiment examiner les choses de près, vous allez vous rendre compte que les fautifs sont parmi les étudiants. Mais c'est aussi une mauvaise pratique de lier, de conditionner la réussite à l'achat du support. L'école, ce n'est pas un lieu commercial, ce n'est pas un marché, mais l'école, c'est là où on est tenté de dispenser des savoirs et l'on veut que l'étudiant qui est là puisse comprendre et assimiler les matières. Et l'une des conditions pour assimiler les matières, il faut être présent au cours, il faut posséder ses notes. Et une autre manière de posséder les notes, c'est avoir les supports polycopiés par le professeur, les cours polycopiés du professeur. Et c'est alors que l'étudiant peut se dire, j'ai mes notes à moi et je dois lire pour étudier. Mais si le professeur conditionne la réussite à l'achat, là c'est ce qui est négatif, c'est ce qui est à prendre et l'État, le pouvoir organisateur de l'enseignement, n'a qu'à prendre des dispositions utiles pour écarter de l'enseignement supérieur universitaire des charlatans.
Voilà, pour bien préparer la deuxième session, nous avons quelques réactions des auditeurs, des internautes sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Joël Dramani Banga de Bounia nous a écrit, il dit ceci, l'exemple d'un ami en G1 qui a 12 cours en seconde session, il travaille jusqu'à réussir dans 9 cours et a 3 échecs légers et il reprend. La délibération n'a pas tenu compte des efforts consentis. Voilà une histoire qui décourage d'emblée lorsqu'on a beaucoup de cours en seconde session. Alors comment travailler pour réussir lorsqu'on est dans une telle situation? Il a carrément 12 cours à reprendre. Alors comment travailler? Il dit comment les préparer pour réussir en deuxième session?
Oui, mais c'est trop. Lorsque vous dites que quelqu'un a 18 cours et qu'il se retrouve avec 12 cours, il faut qu'il nécessairement qu'il puisse répondre. C'est-à-dire quelque part, il y a eu aussi une négligence de la part de l'étudiant. Parce que l'étudiant qui est là, il doit nécessairement s'efforcer de façon à ce qu'il puisse assimiler toutes les matières qu'on met à sa disposition. Mais nous avons aussi à revoir notre système éducatif. Et ce n'est pas aussi normal que nous puissions avoir dans une salle de classe, dans une promotion, 18 cours, 20 cours, 22 cours. C'est pas normal. À l'université, on forme des spécialistes dans des domaines déterminés. Il y a aussi à revoir, à revisiter notre programme de formation de façon à ce qu'on puisse nécessairement mettre à la disposition des étudiants des matières qu'il faut et appropriées pour sa formation. On ne doit pas former des généralistes, on doit former des spécialistes. Mais le fait déjà d'avoir 12 cours, et là, l'étudiant lui-même doit se remettre en cause pour voir dans quelle mesure il doit s'associer à d'autres. Parce que vous pouvez être très fort en français, mais vous êtes faible en statistiques. Vous devez aller chercher l'ami qui est fort en statistiques pour lui dire, en tout cas, je suis en difficulté. Si vous pouvez m'apporter de l'aide avec des exercices que nous devons faire ensemble pour que je sois capable de fisque de répondre à 3 des questions qu'on aura posées lorsqu'il s'agit des 5 questions que le professeur a mis à notre disposition.
Bien, nous avons d'autres questions des auditeurs. Fiston Mukinai ou Mukuna nous a écrit, il dit, nous sommes victimes d'échecs dans certains cours juste parce que nous n'avions pas acheté les syllabus. Voilà. Et puis Emmanuel Atama, depuis Kisangani, j'interviens pour le, il dit ceci, je pense que la première des choses est d'oublier l'examen de la première session et de travailler comme si vous voulez alors présenter le premier examen. Voilà, c'est ce qu'il vient de nous dire. D'autres réactions, bon, au fur et à mesure, je vais lire les réactions des auditeurs sur la page Facebook. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à celui qui dit il est victime, il a échoué tout simplement parce qu'il n'a pas acheté les syllabus. Voilà, donc on peut dire qu'il y a certains enseignants businessmen qui font échouer les étudiants qui n'ont pas acheté les syllabus.
Oui, c'est ce qui est malheureux. Puis c'est moi, j'ai même suivi un enseignant qui était en train de construire une maison et il disait à ses étudiants, moi, je dois construire ma maison, il faut nécessairement que vous puissiez acheter les supports. En fait, il faut revisiter cette manière de voir les choses. Et chaque université ou chaque institution d'établissement supérieur et universitaire doit s'organiser à avoir une imprimerie et chaque professeur doit mettre à la disposition de l'université ou de la faculté son cours de façon à ce que cela soit pris en charge par la faculté ou par l'université et que l'université puisse mettre cela à la disposition des étudiants. Mais il ne faut pas laisser à chaque professeur l'initiative, lui, de pouvoir être en contact direct avec les étudiants. C'est aussi humiliant que les professeurs puissent se mettre à demander, à quémander son argent auprès des étudiants. C'est humiliant. Il faut que les choses là puissent changer. Et c'est tout à fait assez vraiment anormal que l'étudiant au niveau de la maison, et lorsqu'on lui pose la question par ses parents, pourquoi avez-vous échoué, c'est parce que je n'ai pas eu à acheter le support. Et le professeur a dit que comme je n'ai pas acheté le support, même s'il m'arrivait de répondre aux questions, pour lui, ces questions-là, les réponses données sont des réponses fausses. Là, c'est ce qui est très grave. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous devons mettre à la place publique. Ce sont des choses que nous devons nécessairement condamner. Mais souvent, les étudiants aussi exagèrent. Lui-même n'était pas dans la possibilité de répondre aux questions. Et il pense que lorsqu'on achète un support, directement, c'est la réussite. Et il ne fournit aucun effort pour examiner, pour étudier. Et il pense que le fait d'avoir acheté, le professeur doit directement lui donner des points. Ça, ce sont des choses que nous pouvons aussi condamner de la part des étudiants.
Alors, professeur Yaoui dit, il y a des étudiants qui reviennent en deuxième session tout simplement parce qu'ils n'ont pas des cotes. Il y a des vides. Alors, comment expliquez-vous qu'on se retrouve avec des vides dans certains cours et parfois les papiers d'examen ont disparu, le professeur les a égarés?
Oui, là aussi, il y a autre chose. Il y a le fait qu'un étudiant ne puisse pas écrire son nom sur les papiers d'examen. Il y a des étudiants qui arrivent dans la salle d'examen. Au lieu de commencer par écrire son nom sur les papiers d'examen, ils commencent d'abord à répondre aux questions. Et lorsqu'on doit demander à ce qu'il puisse déposer son papier d'examen, il a oublié d'inscrire son nom. Et c'est tout à fait normal, lorsque le professeur va corriger, qu'il n'arrive pas à lier son nom au point obtenu. Donc là aussi, c'est un problème au niveau des étudiants. Et il y a aussi des auditoires pléthoriques. Vous avez les professeur à 1500 étudiants. Il faut nécessairement qu'ils puissent considérer, corriger les 1500 papiers. Et la fatigue aussi est mise à profit de façon à ce que les professeurs arrivent même à oublier certaines copies qu'ils devraient nécessairement corriger. Ça aussi, il y a une explication à donner à ce qui concerne les vides. C'est pour cela qu'on donne toujours l'occasion à l'étudiant de pouvoir introduire un recours. C'est aussi un comportement qui n'est pas bien, cette stratégie aussi des recours. C'est pas normal, l'université ne doit pas fonctionner avec cette manière de voir des choses et qu'il y ait des recours, non. Mais en fait, on donne quand même à l'étudiant l'occasion de pouvoir réclamer et pour dire, écoutez, j'ai eu à participer à l'examen. Et la liste de présence est toujours accompagnée du procès verbal. On doit vérifier réellement l'étudiant était présent au cours. Et les professeurs doivent peut-être vérifier et se rendre compte, non, il y a des copies qui n'ont pas de nom. et l'étudiant doit être convoqué de façon à ce qu'on puisse, on puisse retrouver sa note. Et au niveau des recours, souvent on a trouvé des solutions. Mais il y a des étudiants aussi qui est là, il a inscrit son nom sur la liste de présence, mais il n'a pas déposé son papier parce qu'il n'a pas su répondre des questions, il est sorti avec son papier. Mais à la fin, il vient réclamer, il constate qu'il y a un vide, il réclame, non, moi j'étais présent. Et pourtant, la responsabilité incombe à lui.
Bien. Gentil Oumana nous appelle de Kananga. Vous voulez également participer à cette émission. Nous parlons de préparatifs de la deuxième session à l'université. Vous avez des questions et préoccupations. Camarades étudiants, appelez au 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Gentil Oumana, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, c'est le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, en tout cas ce sujet-ci est très intéressant pour les étudiants qui ont passé à la deuxième session. Si nous voulons faire quand même une petite remarque derrière, on sait que la deuxième session c'est l'affaire des assistants. Pourquoi? Parce que les frais de participation revient toujours aux assistants. Dans quel sens? Vous voyez quelqu'un qui procède deux échecs légers avec 55%, avec 55, mais on lui retient pour qu'il puisse passer à la deuxième session, dans le sens qu'il puisse payer les participations, et les participations là, revient aux assistants. Alors, je voulais demander, ma question ici se dirige directement au ministre de l'Éducation, qui est Mathieu Mwangoufam, dans le sens que quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer dans le sens qu'on puisse atténuer ce tel genre de bêtises. Alors, je voulais aussi demander à notre invité qu'il puisse nous donner quelle différence qui existe entre deuxième session et recours. Parce que quelqu'un qui a passé à la deuxième session, il peut passer encore au recours, c'est oui, c'est ça ma question, merci.
Bien, Jean-Paul Yaoudi.
Oui, je comprends bien la préoccupation de l'auteur. Vous savez, nous avons deux sessions. Nous avons la première session, il faut satisfaire aux critères. Mais les critères à satisfaire, on considère aussi le nombre de cours. C'est très important parce que vous pouvez avoir, il y a des promotions qui ont moins de 9 cours. Ça aussi, c'est une première catégorie. Il y a des promotions qui ont de 9 à 10 ou à 12 cours. C'est la deuxième catégorie. Il y a des promotions qui ont 12 cours et plus. Alors, les critères ne peuvent pas être les mêmes. Vous pouvez avoir quelqu'un dans une promotion, passer des classes avec des échecs élevés, des échecs légers, mais dans une autre promotion, il ne passe pas des classes, il est contraint à passer à la deuxième session. Pour quelle raison? Parce que le nombre de cours sont différents. Alors maintenant, les échecs légers, en fait, c'est combien? Lorsqu'on dit échec léger, c'est 8 sur 20 ou 9 sur 20. C'est ce qu'on appelle échec léger. Échec grave, c'est 6 et 7 sur 20. Et échec profond, c'est inférieur à 5. Alors, avec les échecs, les échecs profonds, il faut nécessairement que l'élève, l'étudiant puisse reprendre son examen. Mais il y a aussi un système de péréquation qui se réalise, oui, ce qui peut amener à ce qu'on puisse réduire et élaguer un échec, parce que l'étudiant doit nécessairement avoir des échecs légers, mais il se retrouve avec 3 échecs, mais avec le système de péréquation, on peut élaguer un échec et que l'étudiant puisse passer des classes. La péréquation ne se réalise pas aussi de n'importe quelle manière, il faut tenir compte des maximums de notes. Un cours côté sur 30, on doit appliquer la péréquation avec un autre cours côté sur 30. Mais on ne peut pas appliquer la péréquation avec un cours côté sur 30 pour un cours de sur 60. C'est telle sorte que cet étudiant avec des échecs, il va nécessairement revenir en deuxième session. Donc il y a beaucoup de conditions. Malheureusement, les étudiants ne sont pas informés de ces conditions. Moi, je suis doyen de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. J'ai demandé à ce que dans notre faculté, qu'on puisse mettre à la disposition des étudiants et tous ces critères. C'est alors que le vice-président chargé de l'enseignement a affiché ces critères. Les étudiants sont en train de défiler au niveau de la faculté pour lire les critères. Et il doit travailler son examen en fonction de ces critères-là. Mais si l'on n'est pas informé des critères, on est toujours surpris de revenir à la deuxième session. Mais si la deuxième session, la délibération sanctionne, dit que vous êtes à la deuxième session, mais il y a une autre possibilité qu'on offre à l'étudiant d'introduire des recours si peut-être montrer qu'il y a une erreur matérielle. Il peut arriver qu'on puisse mal calculer les notes de l'étudiant. L'étudiant a eu à le constater, il devrait nécessairement, avec les notes des travaux journaliers, disons les travaux annuels, obtenir 20 sur 40, mais les calculs ont été mal faits, il s'est retrouvé avec 18 ou bien avec 16. Ça, c'est une erreur matérielle. Il peut aussi s'agir d'une omission. La note ne lui a pas été attribuée. On peut aussi parvenir à lui attribuer la note au niveau des recours, il peut passer. Mais maintenant, là, s'il y a des insertions, dont la décision est déjà prise, oui. C'est question maintenant de faire ce que, comme cet étudiant-là me disait, il médite, il est en train de voir dans quelle mesure il doit maintenant réussir à tous ses examens.
Voilà. Et les frais de participation à la deuxième session s'élèvent à combien?
Oui, c'est fixé par les ministères, parce que pour le moment, on ne parle plus des dollars, on parle maintenant des francs congolais, c'est 9 450, et l'étudiant est tenté de payer, et souvent, cet argent n'est pas perçu par un individu, c'est par la banque. Au niveau de l'Université Pédagogique Nationale, nous avons une banque qui est installée au sein de l'université, et c'est cette banque qui reçoit de l'argent. Et à la fin, l'argent-là est destiné à l'examinateur, aux examinateurs, et destiné aussi aux surveillants, parce qu'il doit venir surveiller un examen, et il faut nécessairement qu'il puisse disposer de son moyen de transport. Sinon, les surveillants, vous l'appelez, ils disent, bon, je n'ai pas eu mon transport, et il ne se présente pas. Il faut nécessairement que l'examen puisse se passer dans de très bonnes conditions, et ces très bonnes conditions, c'est ce qu'on appelle cette préparation de cette session, il faut nécessairement que l'étudiant puisse y contribuer.
John Kalunga est à Lubumbashi, archange, qui nous appelle les Kikuit. John Kalunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute. On vous écoute.
Oui, moi, je pose la question à notre invité. Il y a des professeurs, quand ils viennent introduire les cours, jusqu'à ce jour, ils vont terminer les cours, ils ne posent ni TD, ni TP, ni interro, seulement l'examen. Alors, avant l'examen, le professeur doit nécessairement donner la moyenne. Là, on se pose dans des questions. Comment est-ce qu'il a formulé, dont il a donné la moyenne? Il y a d'autres qui arrivent même à poser l'examen sans toutefois la moyenne choisie. Mais après la délibération, on va avoir des échecs et des réussites. On ne sait pas comment est-ce qu'on a réussi, comment est-ce qu'on a échoué. Il y en a d'autres professeurs, ils promettent que moi, à mon examen, vous allez présenter à note ouverte. Le jour de l'examen, il vient, il vous dit, pas question de note ouverte, allez déposer tout, on vous tracasse jusqu'à ce que vous déposez tout devant, vous présentez l'examen et il s'en va. Il y en a d'autres, il dit, bon, mon examen, donc pour réussir, il faut tricher. Un professeur qui donne cours, un professeur ordinaire dit que pour réussir dans mon cours, il faut tricher. Mais on n'accompagne pas les étudiants pour tricher. On emballe tout maintenant. Là, on étudie pour former ou bien pour être comment des malhonnêtes, parce que l'étudiant doit faire tout pour tout pour se cacher, pour ne pas être attrapé. Et là, si on est venu avec une autre formation, il faut lire, il faut faire ceci devant ses professeurs. Je ne sais pas comment il faut retrouver la compte. Il y a autre chose que je voulais te demander. Il y a des frais de session. Dans une autre institution, on demande 15 dollars. Mais le jour de tout payer, on vous demande en francs. Il faut payer 5 500. Dans une autre institution, on vous demande 20 dollars. Pour payer, non, il faut payer 21 000 francs. Donc, ce n'est pas général à tout le monde, toutes les institutions supérieures et universitaires, il faut payer. Si c'est 10 dollars, 10 dollars. Si c'est 15 dollars, c'est partout, mais c'est par-ci, par-là, et on demande ceci, on demande cela. C'est ça mes questions.
Merci, John Kalunga. Archange, vous êtes à Kikuit. Bonjour.
Oui, salut, je dis salut à l'invité.
On vous écoute.
Oui, j'ai une préoccupation à poser à votre invité. Je voudrais savoir auprès de votre invité si les critères d'admission à la première ou deuxième session sont universels ou cela dépend d'une institution à une autre. Pourquoi je demande ça? J'ai eu le problème d'un mec là qui a 58% sans aucun échec et il a un manque de cotes à un cours. Le procès, il devait normalement passer par une convocation, mais ça n'a pas été fait. On a essayé de contacter le professeur qui lui devait les cotes. Il a dit qu'il n'a pas trouvé ses copies, alors que dans le fiche, dont nous signons dans les salles pour pour confirmer que vous aviez réellement participé à l'examen, son nom y figurait. Je voudrais alors savoir auprès de votre invité, dans de tels cas, qu'est-ce qu'on doit normalement faire. Et par rapport au sujet du jour, s'il faut ou pas se préparer par rapport à l'examen de la deuxième session, moi je crois que, comme l'autre intervenant l'avait dit, il faut nécessairement oublier tout ce qui est arrivé et se préparer en conséquence pour la deuxième session. Donc, cherchez à oublier tout ce qui vous est arrivé concernant les cours dont vous aviez fait confiance, si vous l'avez reçu ou pas, et mieux se préparer pour la deuxième session. Et surtout dans cela, ne pas tenir compte de ce que vous aviez déjà fait à la première session. Donc, maximiser encore les efforts. Cherchez à avoir des notes excellentes le plus que possible.
Merci. Edouard Tchama de Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons des préparatifs de la deuxième session à l'université. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Bon, en fait, moi, je voudrais juste apporter une petite lumière et une contribution égard à la manière dont les études sont données ici à Kinshasa. Bon, en fait, moi, je suis gradué en relations internationales. Je voudrais dire ceci. Toutefois, on ne parvient pas aussi à relever quand même certains critères de la délibération. En dépit du fait que la délibération actuellement n'est pas beaucoup pris au sens vrai du terme. Notamment, les professeurs actuellement consacrent la réussite à l'achat de syllabistes comme notre auditeur qui vient récemment de le dire. Bon, moi, ce que je devrais seulement apporter comme conseil à nos auditeurs, ou soit à tous les étudiants qui sont passés à la deuxième session, est de prendre seulement le courage, revoir encore les cours. Comme une étudiante encore qui vient de parler que bon, ils ont passé 18 cours auxquels il a réussi à 6 cours. Mais imaginez-vous, monsieur le journaliste, si un étudiant a réussi à 6 cours parmi 18 cours, et elle a fait face à 8 mois, hein? Aujourd'hui, elle se retrouve au finish dans deux mois. Est-ce qu'elle peut faire face encore à 12 cours qui sont restés pour réussir? En tout cas, moi, je dirais quand même que les professeurs puissent quand même revoir aux critères de la délibération. Les critères aussi, c'est en fonction quand même de la présence, de la fidélité de l'étudiant au cours et puis de la compétence et des critères quand même qui sont sur d'autres élèves. Merci beaucoup, monsieur le député.
Bien. Professeur Jean-Paul Yaouidi, vous avez suivi John. Commençons par la question de John Kalunga de Lumbashi. Il dit il y a certains professeurs qui ne donnent pas des TP, rien, pas d'interrogation. Ils viennent directement vous soumettre à un examen et parfois ils vous disent c'est à tombeau ouvert et arriver là-bas, aller fermer les notes et puis soit dans mon cours il faut tricher pour réussir. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à Kalunga par rapport à tout ça?
Oui, merci beaucoup, mais monsieur Kalunga doit savoir que les TP ne sont pas de la responsabilité des enseignants. Vous savez, l'enseignant, les professeurs d'université, a des collaborateurs qui sont les assistants ou les chefs de travaux. Les professeurs est concentré à donner, à dispenser la partie théorique de son cours, la partie pratique de son cours, et confier à ses assistants, à ses chefs de travaux. Il faut nécessairement que les chefs de travaux et assistants puissent faire ce qu'il leur est demandé de faire dans l'encadrement des étudiants, amener les étudiants à pouvoir revoir leurs notes ensemble avec lui. Et maintenant, demander aux professeurs de pouvoir réaliser des TP avec les étudiants, bon, ça peut arriver avec certains cours tels que en sciences, dans les domaines des sciences, en mathématiques, en chimie, ça peut arriver, mais en fait, la réalisation des TP, ça incombe aux assistants et chefs des travaux. Et les professeurs, ils viennent pour son évaluation, mais l'évaluation se réalise soit à livre ouvert, soit à livre fermé. Et lorsque l'étudiant, lorsque notre ami parle de la tricherie, en fait, les professeurs parlent peut-être en termes imagés. C'est une manière de dire qu'il est considéré consulter vos notes et pour répondre aux questions. C'est tout aussi une bonne manière de poser des questions pour éviter à ce que les étudiants soient surveillés comme s'ils étaient dans une prison. Mais il faut que l'étudiant qui travaille son examen il puisse être libre dans toute liberté. C'est alors qu'on peut dire, écoutez, vous présentez votre examen en consultant vos documents. Mais ce qui est mauvais est qu'on ne puisse seulement avoir les notes d'examen et non les notes des travaux journaliers. Non, l'examen ou la session, on comptabilise les trois dimensions. Les notes des travaux pratiques, les notes des interrogations et les notes de l'examen. Il faut qu'on puisse mais il faut réaliser la sommation. On ne peut pas seulement évaluer l'étudiant rien qu'avec les notes d'examen. Il y a ce que nous appelons travaux pratiques, il faut aussi les catégoriser. Il y a des travaux pratiques qui se réalisent à la maison, à domicile, il y a des travaux dirigés qui se réalisent dans l'auditoire. Alors, soit on n'a pas eu à réaliser des travaux pratiques au niveau de la maison, mais on peut réaliser des travaux dirigés dans l'auditoire. Et ça aussi, c'est à comptabiliser.
Archange de Kikwit parle de son ami qui a 58%, il n'a pas d'échec, mais il a manqué une cote dans un cours, et puis bon, voilà, et le professeur ne lui a pas donné, il est obligé de revenir à la deuxième session à cause de cela, il trouve que c'est un peu injuste.
Non, c'est pas injuste. En fait, lui, on doit parler qu'il est assimilé aux ajournés. Il est assimilé aux ajournés. Vous savez, lorsque, pendant la délibération, on constate que l'étudiant a toutes ses notes, mais il lui manque une note, souvent les jurys peuvent prendre la décision de convoquer l'étudiant, ou soit de convoquer l'enseignant pour que l'enseignant puisse soumettre à un nouveau examen, un examen à l'étudiant. Et ça, c'est prévu dans le VADMECOM. Vous savez, la gestion de l'université est régie par le VADMECOM. Et c'est dans le VADMECOM que tout est défini. Alors, en cas de vide, si on n'arrive pas à identifier, on n'arrive pas à peut-être à atteindre le professeur, réellement, l'étudiant a eu à présenter l'examen et tout le monde confirme qu'il a eu à présenter l'examen, c'est pour cela qu'on le convoque et il vient. Soit on peut confier à un autre enseignant pour pouvoir interroger l'étudiant, soit il est assimilé aux ajournés jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le professeur. Mais si on n'atteint pas le professeur, c'est à ce moment-là, on dit, bon, l'étudiant, vous pouvez revenir à la session. Mais souvent, ça incombe à la décision du jury. C'est le jury qui doit lever l'option. Dans certains jurys, vous allez constater que l'étudiant a été régulier, tout le monde l'atteste. C'est pour cela, lorsqu'il y a délibération, on demande aux enseignants qui interviennent dans la promotion puissent être là. Ce sont eux qui doivent attester de la régularité aussi de cet étudiant. Si tout le monde atteste de la régularité de l'étudiant, on peut conseiller la moitié des notes à cet étudiant pour qu'il puisse passer et non revenir à la deuxième session. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans la délibération des étudiants.
Alors, professeur Yaoudi, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces étudiants qui se préparent à revenir en deuxième session? Comment doivent-ils se préparer? Et surtout ceux-là qui ont beaucoup de cours, qui doivent lire beaucoup de cours, 12 cours par exemple, et ils doivent venir présenter ces examens-là.
C'est pas une fatalité. Il faut pas que les étudiants puissent considérer ça comme étant une fatalité. Il faut pas aussi que ce soit une occasion qu'ils doivent passer en train seulement d'accuser les autres. Non. Il faut qu'ils puissent voir aussi sa part de responsabilité dans son échec. Et revenir à la deuxième session, c'est une manière de vous donner encore l'occasion de pouvoir doubler d'efforts et peut-être, si vous avez eu à obtenir 10, que vous puissiez améliorer un peu vos notes. Et cette question, au lieu de passer encore tout son temps sur le campus, le mieux serait de prendre un peu de recul. Vous retournez à la maison où vous êtes dans un maquis et commencez à revoir vos notes. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Cette question, seulement, on vous donne encore une occasion de pouvoir améliorer votre prestation. C'est très important que vous puissiez passer, qu'on puisse passer de classe en ayant réussi à tous les examens. Ce n'est pas aussi bon de passer de classe et vous avez réussi. Si vous avez 11 examens, vous avez réussi à 10 examens et puis à un examen, vous avez obtenu 4 sur 10 et puis on vous fait passer de classe. Du point de vue seulement du bulletin, partout vous pouvez amener ce bulletin, on constate un tel échec, mais on constate aussi que vous êtes passé des classes avec cet échec qui est profond, c'est pas aussi bien. Ce qui est important, que l'étudiant puisse réussir à tous les examens. On attend à ce qu'il puisse avoir des meilleures performances dans chaque examen.
Meilleure performance dans chaque examen. Donc, il faut d'abord s'acquitter des frais. Vous avez parlé des 9450 francs congolais, oui. Mais dans d'autres établissements, on a suivi un auditeur, nous a dit, on demande autre chose, 21 000 francs congolais. Finalement, il n'y a pas un montant fixe pour tous les établissements.
Non, il y a des instructions. Il y a des instructions du ministère. À chaque début de l'année académique, il y a toujours des instructions. Maintenant, nous avons l'instruction 016. L'année académique prochaine, ça sera l'instruction 017. Alors, tout est fixé, mais il y a des établissements qui se comportent comme s'ils étaient dans un autre pays. Mais tout est déjà fixé par les instructions officielles. Et même l'élevé de même comme ça concerne toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Mais il y a des institutions qui gèrent des universités, des instituts supérieurs qui n'ont même pas de VADMECOM. Alors, à ce niveau-là, chacun est en train de faire ce que bon lui semble. Mais il faut que le ministère, celui qui est chargé de gérer l'enseignement supérieur universitaire, puisse ouvrir l'œil et le bon de façon à ce que de mettre tous ces gens qui viennent détruire l'université de côté, de façon à ce que nous ayons à l'université réellement un endroit qui rayonne et qui permette aux étudiants qu'ils puissent être performants. C'est important. Mais revenons un peu avec les critères de délibération. Vous savez, autrefois, pour dire d'un étudiant qu'il a réussi, il doit avoir obtenu 12 sur 20. Mais actuellement, on a réduit. Moi, j'ai toujours appelé ça comme nivellement vers le bas. Mais la réussite s'est définie en termes de la moitié des points, c'est-à-dire 10 sur 20. Au lieu de 12, maintenant, c'est 10. Donc, chaque étudiant doit travailler pour obtenir la moitié des points, viser la moitié des points. Mais il y a des étudiants qui visent plus. Mais il y en a d'autres qui visent seulement la moitié des points. Ça dépend d'un étudiant à un autre et ça dépend des objectifs qui s'est assigné pendant sa scolarité.
Bien, professeur Jean-Paul Yaoudi Manizambi, doyen de la faculté de psychologie de l'Université pédagogique nationale. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup.